Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
La Bible dit que la Bible veut qu'on parle comme ça. Dieu veut qu'on parle comme ça. Et quand nous sommes citoyens d'une patrie, lorsque nous appartenons à une patrie, on a une culture, on a des habitudes, on a des croyances, on a des coutumes, on a des traditions, on a des fêtes. Et on a parlé de tout cela ces deux dernières semaines, notamment la fête de Pâques, etc. Et la semaine dernière, on a insisté sur le thème « la culture du royaume ». Pourquoi ? Parce que la culture du royaume est quelque chose d'extrêmement important. Rapidement, je rappelle, on a dit que, en devenant citoyens du royaume des cieux, à notre nouvelle naissance, nous embrassons la culture de notre pays. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on confesse Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit dans le livre de Colossiens au chapitre 1 que Dieu nous transporte du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a un transfert. De tes yeux, tu ne vois rien, mais spirituellement, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Spirituellement, ton esprit, la Bible dit qu'il est né de nouveau, il est revenu à la vie. Et quand tu entres dans le royaume des cieux, tu es censé embrasser une nouvelle culture, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser. C'est pour cela que la parole de Dieu, particulièrement dans les épîtres de Paul, insiste beaucoup sur le renouvellement de notre pensée. Parce que Dieu pense différemment des gens du monde. Et Jean nous dit dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la culture, la manière de penser du monde est différente de la manière de penser de Dieu. Et c'est là le problème que nous avons avec Dieu. C'est que Dieu pense d'une certaine manière et nous, on pense d'une autre manière. Et j'ai dit que c'est difficile de commencer à penser comme Dieu quand on vient de devenir enfant de Dieu. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que depuis notre naissance jusqu'à notre rencontre avec Jésus, on a toujours eu une façon de penser, de nous comporter. On a grandi dans une société. Par exemple, quand tu viens parler de royaume, ça a l'air beau tout ce que le pasteur raconte. Il parle de royaume, de Jésus est un roi, tout ça. Mais nous, on est au Gabon, frère. Nous, on vit dans une république. Notre président, c'est Ali Bongo Ondimba. Donc, nous, on ne connaît pas les histoires de royaume. On nous parle de royaume à la rigueur quand le roi du Maroc vient faire un tour ici et puis il repart. Là, on parle de royaume. Mais sinon, on ne connaît pas les histoires de royaume. On est dans des démocraties. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Donc, le président ne décide pas, c'est nous qui le votons. Dans un royaume, le roi, tu ne le votes pas. Le roi, il est là et il reste. Tu n'es pas content ou content, pas d'accord avec lui ou pas, c'est toi qui bouges, c'est pas lui. Si tu n'es pas content avec le roi, on te zigouille la tête dans le royaume. Dans un royaume, il n'y a pas de rébellion. Dans un royaume, il n'y a pas de parti d'opposition. Dans un royaume, il n'y a que le roi. Dans la démocratie, c'est le peuple qui élit des députés qui vont à l'Assemblée nationale ou au Parlement et qui votent des lois. Dans le royaume, les lois, c'est le roi qui les vote lui-même. Il se lève le matin et puis dit, désormais, je décide que tous les matins, chaque citoyen de mon royaume mange des œufs au plat. Parce que je mange des œufs au plat. C'est-à-dire, il a pensé, il a déclaré, ça devient une loi. Dans le royaume, ça fonctionne comme ça. Dans la démocratie, si le président se lève un matin et puis déclare ça à la télévision, on va dire le président a perdu la tête, élisons quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est toute une manière de penser. Et quand on n'a pas l'habitude de penser comme ça, quand on commence à lire des livres qui nous parlent de royaume, on a du mal à rentrer là-dedans. Et Après avoir passé autant d'années dans une démocratie, quand on vient te parler de roi, de reine, de royaume, de pouvoir, de prendre ton autorité, etc., c'est difficile à rentrer. Quand on te dit en tant que chrétien, tu as une autorité, tu peux prendre autorité, c'est difficile à penser parce que tu as grandi dans une société où on t'a toujours soumis. Tu n'as pas autorité, tu vas à l'administration, on te fait attendre 6 mois pour avoir un papier. Tu es soumis. Ce n'est pas toi qui décides. C'est l'administration en place qui décide. Quand tu vas le matin au boulot, tu attends une demi-heure dans les embouteillages de l'aéroport parce que le président passe. Tu es soumis. Ah mais je te dis, quand le policier dit tu te gares parce que monsieur doit passer, tu ne décides pas. Pourtant, c'est moi qui l'ai voté, il est censé être mon serviteur et il est censé me faciliter mon trajet pour aller au boulot. Mais il aggrave. Pardon, je ne tiens pas sur le président. On va dire que Luc Ondias commence à parler bizarrement sur les stades. Non, non. Non, on a une façon de fonctionner qui est différente. C'est pour cela qu'un jour, j'étais en train de regarder un opposant qui passait sur Gabon TV. Et puis il s'est mis à crier haut et fort aux journalistes, « Monsieur, on n'est pas dans un royaume ici !» Mais quand il a dit ça, c'était pour lui, il dit, « Mais vous fonctionnez comme si on était dans un royaume, vous croyez où ? Nous sommes en démocratie, voyons. C'est nous qui votons ces gens-là. Arrêtez de nous parler comme si on dirait, c'est nous qui devons tout subir. » Donc c'est différent. Et la culture demeure au cœur des problèmes que nous avons, non seulement dans la société, mais particulièrement dans l'Église. Et le Seigneur m'a dit, Luc, tu fais une pause sur ce sujet et tu vas parler d'un point très important qui pose des problèmes aux gens. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce sur quoi on va se focaliser, c'est ce thème-là. Et vaincre la chair, un obstacle majeur à la culture du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la chair? Ah. On l'a évoqué la semaine dernière, dans le cadre non seulement des pensées, mais aussi dans le cadre des comportements que nous avons. On a dit que comment se manifeste le royaume, comment se manifeste la culture dans la vie d'une personne? Par les valeurs qu'il défend, par la manière de penser qu'il a, par les croyances qu'il a, par les coutumes qu'il a, par ce qu'il célèbre, les fêtes, etc. C'est là qu'on voit la culture d'une nation. D'accord? Maintenant, il y a un point très important qui nous permet de voir les croyances, comment dire, ce en quoi quelqu'un croit, c'est simplement l'observer et voir son comportement. Et quand on voit, quand on lit la Bible nous parle de l'Église comme étant la lumière du monde, donc celle qui se distingue de l'obscurité qu'il y a à l'extérieur. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que quand on vient à l'Église, c'est qu'on trouve ceux qui sont censés être la lumière du monde, qui marchent dans les ténèbres et qui sont oppressés par l'obscurité, par les problèmes humains, par la chair. Il y a certaines choses auxquelles on est attaché qu'on n'arrive pas à délaisser. Pourquoi? Pourtant, je suis en Christ. Je crois en Jésus. Pourquoi je n'arrive pas à laisser certaines choses? Pourquoi je n'arrive pas à surmonter certains désirs, certaines passions? Pourquoi je n'arrive pas à me détacher de certaines habitudes? Pourtant, je suis en Christ. Et quand la Bible en parle, c'est censé être facile. Mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas. Et Dieu m'a dit, tu sais, Luc, le royaume, le sujet du royaume, c'est une chose de l'enseigner, mais c'en est une autre de le vivre. Et pour le vivre, il faut que les gens arrivent à vaincre ce point-là qui est très important parce que tout simplement, les enfants de Dieu ne peuvent pas entrer dans leur héritage en Christ s'ils n'ont pas vaincu ça. S'ils n'ont pas compris cela. J'ai envie de nous rappeler que, premièrement, donc je l'ai dit, nous sommes des citoyens du royaume. Deuxièmement, notre autorité sur la terre dépend de notre obéissance aux lois de notre pays. Dans le royaume, tout comme au Gabon, quand tu es citoyen du Gabon, tu as un pouvoir énorme entre tes mains que l'on appelle tes droits. En tant que citoyen, les droits que te réfère la constitution du royaume. On a eu un enseignement là-dessus. La constitution du royaume, c'est-à-dire la Bible. D'accord? Et dans le monde naturel, tout Gabonais a le droit d'invoquer la constitution, quand il a un problème, de prendre un avocat, etc., etc. C'est la même chose dans la Bible. C'est pour cela que la Bible est un livre juridique, et c'est pour cela que quand tu lis la Bible, ça a tendance à t'ennuyer. Parce que la Bible est un livre de droit, ou qui ne parle les trois quarts du temps que de politique. C'est pour cela que les gens ont du mal à lire la Bible. Parce que la Bible parle tout le temps de politique, et de conflits entre souverains, etc., etc. Et Jésus-Christ lui-même est présenté comme l'avocat. Jésus-Christ est notre avocat, c'est encore un terme juridique. Donc il faut comprendre le juridique que la Bible nous présente. Donc pour pouvoir se tenir devant Dieu et faire valoir nos droits en Christ, devant Dieu, quand on prie, il faut connaître la parole, c'est-à-dire il faut connaître la Bible. C'est pour cela que quand tu as un problème et que tu vas au tribunal, on te demande toujours de prendre un avocat. Parce que le langage juridique, tu ne le maîtrises pas. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, tu dois connaître ce livre de la loi pour pouvoir parler devant lui. Donc la loi nous donne, la constitution, c'est-à-dire la Bible, nous donne des droits. Les lois produisent la culture et le style de vie. La qualité de nos relations aussi nous démontre aussi la culture que nous avons embrassée, les gens que nous fréquentons, etc., etc. Et notre culture, c'est les valeurs que nous défendons, que nous avons embrassées, reflètent nos croyances, ce en quoi nous nous positionnons. Et nos comportements aussi. Et je vais m'arrêter sur les comportements. Amen. Et aujourd'hui, la chair est un obstacle majeur qui se dresse devant nous quand nous prenons la décision d'embrasser la culture. Amen. Tu peux être dans l'église, venir chaque dimanche au culte. Tu penses être dans le royaume de Dieu et en fait, tu ne l'es pas du tout. Et ça, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, on peut être chrétien, on peut venir à l'église tous les jours et ne pas être dans le royaume de Dieu? J'ai eu cette pensée quand je réfléchissais sur le sujet et le Saint-Esprit me répond, oui. Et je lui ai dit, mais comment ça? Montre-moi. Et il me montra. On va aller dans Galates 5. Vous avez déjà ouvert Galates, verset 16. Il dit, c'est Paul qui parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un passage qui est assez long mais très important. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Est-ce qu'on peut dire avec moi les œuvres de la chair? C'est là que le problème se pose. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Entre parenthèses, il est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler à des gens qui sont dans l'église. Il ne parle pas à des païens, là. Il parle à des enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui sommes censés être concernés ici. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, le problème qui se pose, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que quand on lit dans la Bible, ils n'hériteront point le royaume de Dieu, la plupart des gens pensent qu'il est en train de dire ils vont aller en enfer. C'est faux. Ne pas hériter du royaume de Dieu, ou encore ne pas entrer dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire aller en enfer. Le non-croyant qui ne connaît pas Jésus va en enfer. Le chrétien qui pratique des choses que la Bible appelle abomination, lui aussi, s'il ne se repent pas, risque d'aller en enfer. Mais le Saint-Esprit me dit, Luc, sais-tu qu'il y a des choses, des actions, ce qu'on appelle des œuvres de la chair manifeste, qu'on peut pratiquer dans l'Église et qui peut nous empêcher de vivre pleinement l'héritage du royaume? Je rappelle, pour que vous compreniez mieux, j'ai toujours dit que Jésus-Christ est la porte. Parce que lui-même, il se définit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. D'accord? Et quand nous entrons dans le royaume, c'est comme si on entrait dans une maison dont Jésus-Christ est la porte. Donc notre nouvelle naissance, quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est comme entrer dans la maison. Et c'est pour cela qu'il dit dans le livre de Luc au chapitre 2 au verset 52, « Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc quand on entre dans le royaume, c'est comme si on entrait dans une maison où il y a tout un tas de biens luxueux. Et Dieu dit que tous ces biens qui se trouvent dans la maison sont à toi, prends-en possession. C'est ce que Jésus-Christ appelle votre héritage dans le royaume. Qu'est-ce que c'est que notre héritage dans le royaume? Qu'est-ce que c'est que tous ces biens dont Dieu dit qu'ils nous appartiennent? Ce sont les choses telles que la guérison divine, par exemple. La faveur, la protection, la prospérité, la fécondité. Toutes ces choses que la Bible appelle des promesses accomplies en Christ. Et Jésus-Christ dit que ces choses-là, plutôt Paul dit que ces choses-là, si vous les pratiquez, ces choses que l'on appelle péché ou encore iniquité, si vous les pratiquez, vous n'hériterez pas du royaume. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le royaume, mais ne pas vivre le royaume, les bienfaits du royaume. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Le Seigneur m'a dit qu'il faut leur parler de ça, parce que s'ils ne comprennent pas ça, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église pendant des années et ils n'expérimentent jamais aucun miracle dans leur vie. Et quand tu entres dans leur vie pour regarder la qualité de leur vie, tu te rends compte qu'ils pratiquent des choses, ils font des choses qui les empêchent de pouvoir vivre certains miracles dans leur vie ou certaines promesses. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années. Je parlais avec une sœur il y a 2 semaines que j'ai reçue en entretien. Ça m'a fait sourire. Elle vient me voir et elle me dit, ça fait des années qu'elle vit avec un homme. Et elle me dit, pasteur, ça fait une dizaine d'années qu'on essaie d'avoir un enfant. On n'arrive pas. On a vu tous les médecins. Je ne suis pas stérile. Mais on n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc ma question c'est, est-ce que vous êtes marié? Elle me dit, non, on n'est pas marié. Ah, vous n'êtes pas marié? Non. Mais on essaie d'avoir un enfant. Oui, d'accord. Tu es chrétienne? Oui. Tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Donc tu es dans le royaume? Oui, je suis chrétienne, enfant du royaume. Ok. Lui, il est chrétien? Non. Donc lui, il ne croit pas en Jésus? Non. Mais vous voulez avoir un enfant? Oui, j'ai demandé ça à Dieu. Et là, je dis, mais après, elle me dit, mais pourtant, les non-croyants, ils ont des enfants. Le non-croyant n'est pas dans le royaume. Il est dans le monde. Donc, lui, c'est simplement la grâce de Dieu qui fait qu'il a les enfants. Mais toi, dans le royaume, tu es soumis à une autre loi. Tout est spirituel. Est-ce qu'on peut dire avec moi, tout est spirituel? Donc, quand elle me dit, je prie pour avoir un enfant depuis des années en tant qu'enfant de Dieu, Dieu dit, tu ne peux pas avoir, je ne te donne pas d'enfant. Si tu as un enfant là, c'est peut-être ma miséricorde. Il y a des chrétiens qui ne sont pas mariés, qui vivent avec des gens et qui ont des enfants. Et je dis que la miséricorde, tu veux que je te donne une image de la miséricorde? La miséricorde, c'est comme quand tu vas au travail et puis tu es dans les bouchons. Et pendant que tu es dans les bouchons, tu vois les mendiants qui viennent cogner à ta fenêtre. Toc, 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 manger, manger, manger. Il y a des fois, tu ouvres la vitre. Oh, un petit 100 francs là, tiens, 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 tiens. Il y a d'autres fois, toc, toc, non, c'est bon. C'est ça la miséricorde. Il y a des jours, tu es de bonne humeur, tu donnes. D'autres jours, tu ne donnes pas. La miséricorde de Dieu, c'est ça. Il y a des jours, il te donne, il y a des jours, il n'a pas envie de te donner. Vous parlez de la promesse dans la Bible qu'on appelle la fécondité. Si Dieu veut donner, il donne. Mais s'il ne veut pas donner, il ne donne pas tout simplement parce que tu es dans le péché. Et être dans le royaume de Dieu et ne pas hériter des bienfaits du royaume, des promesses qui sont citées dans l'Alliance, c'est parce que tout simplement, on peut avoir des comportements qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume. Amen. On avance. Et Paul rentre encore plus dans les détails. Aujourd'hui, je vais rester beaucoup sur ce passage-là. Version parole vivante, j'aime bien cette version-là. Regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Je vous rappelle qu'il parle à des gens qui sont dans l'église. Vos anciennes natures avec ses désirs égoïstes se rebiffent contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. C'est là que le problème de la chair se pose. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre quoi, vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Verset 18. En effet, mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Et il va encore plus loin dans ce qu'il dit. Il dit, mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, c'est-à-dire votre chair, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un comportement? Un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. Ah ah, il faut regarder le comportement de quelqu'un et tu vas reconnaître un certain nombre de choses que Paul cite ici. Il dit, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Je vous rappelle qu'il parle à des gens qui sont dans l'église. Hein? Livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis, ce sont les inimitiés, je me suis trompé ici, les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, aïe, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes. Au cas où tu ne sais pas, ça veut dire les bagarres, les rixes, les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie ou encore la gourmandise, les beuveries, les ripailles et d'autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage. Du grec kleronomeo, qui veut dire simplement être héritier, mais ne pas avoir droit à cet héritage du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, on peut être dans l'église. On ne peut ne pas être mauvais. On peut avoir un bon fond. Hein? Mais on peut pratiquer des choses et ne pas pouvoir hériter le royaume de Dieu. Amen. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez mieux encore. Tu peux être enfant d'une famille, fils de ton père, mais lorsque ton père part et laisse l'héritage, il laisse l'héritage aux autres enfants, mais toi, il ne te donne pas. Parce que tout au long de sa vie, tu as eu un comportement qui l'a déplu. Mais pourtant, tu es fils, hein? Tu es fils. Je sais de quoi je parle puisque j'ai un de mes frères. Quand mon père a fait l'héritage de la famille, lui, on ne lui a rien donné. Mon père a dit, je ne te donne pas. Parce qu'un jour, il s'est levé et il a voulu frapper son père. Il a voulu le frapper lors d'une violente dispute. Il a attrapé mon père par le cou et il a dit, je vais te frapper. Et mon père lui a répondu, je te maudis, tu n'auras jamais rien de moi. Devant les autres frères qui étaient là, les autres frères l'ont attrapé. Il lui a dit, mais tu es fou, gars. Comment tu peux faire un truc pareil? Il est allé encore plus loin, il a attaqué son père en justice. Et son père lui a répondu, je ne te donnerai jamais rien jusqu'à sa mort. Son père a dit, je ne te donnerai rien. Et aujourd'hui, le gars, il souffre, il galère. Il souffre, oh. Il souffre. Donc, tu peux être fils, appartenant à une famille, mais ne pas avoir l'héritage. Bien que, par filiation, tu es fils. Et Paul dit que tu peux être enfant de Dieu, chrétien, confirmé, être dans l'église, mais ne rien recevoir à cause de tes comportements. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il y a des gens, aujourd'hui, et ça fait débat dans l'église, des gens qui croient en Jésus, j'ai envie d'ouvrir cette parenthèse, des gens qui croient en Jésus, qui sont dans l'église, qui prient, mais qui n'expérimentent pas le royaume. Vous voulez que je vous donne des exemples? Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui croient que le royaume de Dieu est à venir, seulement quand Jésus-Christ reviendra. Alors que la Bible nous montre que le royaume, nous l'expérimentons sur la terre maintenant. Comment tu veux parler à quelqu'un d'héritage dans le royaume, de vivre les bienfaits du royaume, la guérison? Tu peux être guéri aujourd'hui. Il te dit, non, ça je le vivrai que plus tard. Il peut pas le vivre maintenant. Il ne peut pas croire en ça. Et ces gens-là, bien entendu, ils sont sauvés. Maintenant, la différence qui va se poser avec toi, c'est ce que Paul décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 17. Lorsque Christ reviendra, Christ va enlever son église. Christ va enlever son église et certaines personnes de l'église vont rester. Et vont subir ce que Jean décrit dans l'Apocalypse appelé la tribulation pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, les chrétiens qui seront restés là devront faire un choix. Christ ou bien le monde? Christ ou les autres doctrines? Christ ou les croyances du monde? Et c'est là que ça va être compliqué pour ces gens-là. C'est ce que la Bible appelle la tribulation. Alors que ceux qui auront reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur auront été enlevés avant. Amen. Je ferme la parenthèse, je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus. On avance. Combien avec moi on avance? Donc, tu peux être sincère, mais ce n'est pas ta sincérité qui va te permettre d'hériter le royaume. Dans le royaume, il y a tout un tas de bonnes choses à vivre. Dans ton héritage, dans le panier de ton héritage. Mais si tu n'as pas la connaissance, et si tu ne comprends pas bien ce que Dieu dit dans la parole, tu risques de passer à côté. Donc tu peux être sincère, mais être malheureusement disqualifié à cause de ton comportement. Et il y a des comportements que beaucoup pensent être dans le vrai. Paul, à un moment, parle, c'est écrit, à un moment, il en parle, il dit, les dissensions... ceux qui pensent être dans la vérité, plus que les autres, à un moment, ils en parlent là, je ne sais plus où. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont seuls dans la vérité. Paul dit que celui qui pense être seul dans la vérité n'héritera pas le royaume. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Amen. Donc, quelqu'un peut être en Christ, mais comme Paul dit, mais être ivrogne toute sa vie et ne pas expérimenter le royaume. Quelqu'un peut être en Christ, mais être dans l'adultère et ne pas hériter le royaume de Dieu. Quelqu'un peut être en Christ, mais être dans les fausses doctrines. Quelqu'un peut être en Christ et avoir des ambitions égoïstes, ou encore être quelqu'un qui se querelle tout le temps, ou encore vivre toute sa vie dans la jalousie. Quelqu'un peut être en Christ et avoir toutes ces choses-là et ne pas vivre le royaume. Et c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. L'incompréhension que l'on a dans l'église, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que les œuvres de la chair, c'est juste le fait de coucher avec quelqu'un. C'est pas juste ça. C'est pas juste, ça va encore beaucoup plus loin. À un moment, il parle de mauvais caractère. Tu peux avoir un mauvais caractère toute ta vie et ne pas expérimenter certaines choses. Amen. Donc, vaincre les œuvres de la chair, c'est quelque chose de très, très, très important. Et quand on parle de culture, on parle d'acquérir une mentalité et des comportements qui nous distinguent des gens du monde. Amen. Qui nous distinguent des gens du monde. Paul nous dit, et c'est là qu'on va atterrir, dans Galates 2:20, il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le problème aujourd'hui avec beaucoup d'entre nous, il est là. C'est que beaucoup n'ont pas crucifié leur chair. Il y a bien entendu les œuvres manifestes de la chair qui sont évidentes et qui sont très simples à reconnaître, telles que la débauche, telles que l'immoralité, l'impureté, etc. Ces œuvres-là, cela, c'est même pas la peine, on n'a même pas besoin de réfléchir longtemps, ça, c'est direct en enfer. Mais il y a d'autres œuvres de la chair qui, certes, te garderont sauvé, mais t'empêcheront d'hériter le royaume. Amen. Mais Paul dit que pour pouvoir vaincre tout cela, il faut crucifier sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire crucifier sa chair? Et c'est là que beaucoup aussi ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Tu peux être dans l'église, ne pas pouvoir expérimenter le royaume parce que ta chair n'a pas été crucifiée. La chair, si on ne la crucifie pas, il y a des choses que l'on ne peut pas expérimenter avec Jésus-Christ. Amen. L'esprit, bien qu'on ait la bonne volonté d'accomplir la volonté de Dieu, si l'esprit n'a pas su soumettre notre chair, il y a des passions, des désirs, des convoitises auxquelles on ne peut pas résister. Et ça, c'est très, très dangereux en tant qu'enfant de Dieu. On me suit? Un véritable citoyen du royaume des cieux est quelqu'un qui a su soumettre sa chair. Un véritable citoyen du royaume des cieux est quelqu'un qui, par son comportement, se distingue automatiquement des gens du dehors. qui que tu sois, en tant qu'enfant de Dieu, où que tu ailles, où que tu sois, si tu ne sais, si on ne voit pas une ferme distinction entre ta vie et la vie des autres, alors il y a un problème. Il y a un vrai problème. Un citoyen du royaume de Dieu, est-ce qu'on peut dire avec moi citoyen du royaume? Un véritable citoyen du royaume des cieux, par exemple, ne peut pas trouver normal de prendre la femme de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui... Non, on parle de culture, non? Dans le royaume, là j'ai envie d'être ferme là-dessus, vraiment, c'est enregistré. Ça va aussi passer sur Internet, que les gens l'entendent. Dans le royaume, et j'insiste sur ça parce que je fais église par église et c'est des choses que je vois véridiques dans l'église. Des gens qui trouvent ça normal. Dans le royaume, en tant que citoyen, tu peux être chrétien, mais si tu prends si tu trouves normal de prendre la femme de quelqu'un d'autre, on parle naturellement d'adultère, ou le mari, hein? On parle naturellement d'adultère. Dieu appelle ça abomination. Chez nous, dans notre pays, le royaume des cieux, on dit abomination. Tu peux être chrétien et être homosexuel, œuvre de la chair. Oui, vous savez pas qu'il y a des chrétiens qui sont homosexuels? Ah, mais il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, ah oui. Il y en a beaucoup. Même au Gabon, il y en a. Vous savez pas qu'il y a des pasteurs qui sont homosexuels? Mais oh, allez aux États-Unis. Il y a des pasteurs qui sont homosexuels, ils prêchent la parole et l'église est remplie. Et il est ouvert, hein? Il dit, je suis homo, hein? Et je suis sauvé. Je vais aller au ciel. C'est comme si on a mis un voile devant lui. Et puis quand il part, vous n'avez pas vu l'investiture de Barack Obama? L'investiture de Barack Obama, il y a deux pasteurs qui ont parlé. Le premier, c'était Rick Warren, pasteur blanc de l'église Saddleback. Le deuxième, c'est un pasteur noir, très controversé aux États-Unis parce qu'il est homosexuel, ce pasteur. Et c'est une star au stade, ce pasteur. Il fait les télévisions, tout ça. Et il y a beaucoup de monde qui le suit. Hein. Malheureusement, ils le suivent, ils vont aller tous en enfer avec lui. Ah oui. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont homosexuels et ils sont dans la vérité. Dieu dit, dans le royaume, vous êtes, toi en tant qu'homosexuel, tu penses que tu es dans le royaume. Dieu dit, tu n'es pas dans le royaume. Mais pire encore, à cause de ton comportement, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas être citoyen du royaume des cieux et commettre de telles choses. Tu ne peux pas être citoyen du royaume des cieux et être malhonnête. Ce n'est pas dans la culture du royaume. S'il y a des choses que je cite là et que tu vois, c'est dans ta vie, alors Dieu dit qu'il y a un problème avec ta culture et ta façon de penser. Et il y a de fortes probabilités que tu ne sois pas dans le royaume. Paul nous dit dans Galates 5 au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Un citoyen du royaume des cieux marche avec l'esprit et non selon les convoitises de sa chair et non de son corps. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas éprouver des désirs, mais il ne cède pas. Quand on parle de la chair, on parle de notre corps, et notre corps a des désirs. Tu peux être marié et regarder une autre femme et avoir des désirs pour cette femme. Mais oui. Mais tu dois te tenir. Et si tu ne te tiens pas, Paul dit œuvre de la chair. Œuvre de la chair. Là où ça devient plus dangereux, c'est quand tu te plais là-dedans. Et là, c'est ton salut qui risque d'être remis en question. Amen. Donc, le fait de crucifier sa chair, Paul dit, c'est la solution. Et si tu n'as pas crucifié ta chair, alors il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'a pas crucifié notre chair. Est-ce qu'on peut dire avec moi, crucifier sa chair? Le fait de soumettre ta chair. Dans le naturel, tout à l'heure, j'ai parlé des lois. Et Paul nous dit, ok, le problème aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous, vous l'avez lu dans le livre de Romains au chapitre 7, Paul expose un problème. Le fait de vouloir faire des choses, mais ne pas pouvoir les faire. Parce qu'il se rend compte que dans sa chair, dans son corps, il y a comme une loi qui l'empêche de faire la volonté de Dieu. Amen. Comme une loi qui l'empêche de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Romains au chapitre 7. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, quand tu n'es pas en Christ, tu es dominé par une loi que l'on appelle la loi du péché. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il se passe quelque chose au niveau spirituel, c'est que par la présence du Saint-Esprit qui entre dans ta vie, il y a une autre loi qui s'introduit dans ta vie, que je vais citer tout de suite là. Mais le problème aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas réussi à crucifier leur chair, c'est parce que tout simplement, ils sont encore soumis à cette loi-là que Paul appelle ici la loi du péché. Et si tu veux savoir comment prendre autorité sur une loi, il faut que tu fasses passer une autre loi par-dessus. C'est pas vrai? C'est pour cela qu'il nous dit dans Romains 8, à partir du verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de mort. » Quelle autre loi existe ici? La loi de l'esprit de vie. Donc, Paul nous parle de deux lois ici. La loi du péché et la loi de l'esprit de vie. Et si tu veux arriver à surmonter certaines passions, certains désirs qui t'empêchent de pouvoir marcher comme Dieu veut que tu marches, alors Paul dit qu'il faut que tu actives cette loi, appelée la loi de l'esprit de vie. Amen. Donc ceux qui sont en Christ sont ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie, sont ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Et le problème aujourd'hui qui se pose avec beaucoup qui n'arrivent pas à tenir leur corps en garde, c'est parce que cette loi n'a pas été activée dans leur vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui disent, je suis chrétien, je vais à l'église, je n'arrive pas à résister. Parce que tout simplement, ils sont encore soumis à la loi du péché. La loi du péché, elle demeure où? Dans ton corps. Mais la loi de l'esprit de vie, elle demeure où? Dans ton esprit. Et si tu veux pouvoir dominer ton corps et le tenir en garde, il faut que tu marches selon l'esprit et que tu actives cette loi dans ta vie. Que tu acceptes. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Ni plus ni moins. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Et j'ai envie de terminer avec cela, parce qu'il faut quand même donner des solutions. Comment crucifier la chair et marcher par l'esprit? Juste rapidement, pour ne pas trop s'étendre sur le temps. Je vais donner trois solutions. Est-ce qu'on peut dire avec moi trois? Trois solutions. La première clé qui nous permet de crucifier notre chair, la toute première clé que Paul nous donne, c'est regarde-toi comme mort au péché et à tes désirs personnels. Est-ce qu'on peut dire avec moi mort au péché? Il nous dit dans Romains 6, à partir du verset 5, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, est-ce qu'on peut dire que moi le vieil homme, c'est lui là qui te pose des problèmes. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. J'ai envie que tu te tournes vers quelqu'un et que tu lui dises, faut mourir au péché. Faut mourir au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Amen. Donc, le péché, pour répondre à la question, comment je fais si je n'arrive pas à résister? Comment je fais si j'ai envie d'épouser la culture du royaume? J'ai envie de marcher avec Dieu, j'ai envie de marcher avec le Saint-Esprit, j'ai envie d'être, je suis de bonne volonté, j'ai envie d'avancer avec Dieu, mais je n'arrive pas à abandonner certaines choses. Paul dit, le péché en question dont tu parles n'a plus de pouvoir sur toi, sauf le pouvoir que tu lui donnes, lorsque tu cèdes à tes convoitises. Et Galates 5, verset 24, il appuie encore lorsqu'il nous dit, « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort. » Dis encore à quelqu'un, « Sois mort. » Avec, non, dis-lui ça bien, « Sois mort. » Tu n'es pas très convaincu quand tu dis ça. Le mot « mort » vous fait peur un peu. Ok, je comprends. « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui. » À quoi? À ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivant ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. La première clé ici, c'est que tu as juste à accepter et tu as juste à mourir. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas morts. Beaucoup ne se regardent pas comme morts. Tu te tiens devant le miroir le matin et puis tu vois quelqu'un de mort. Un jour, quelqu'un a dit, lorsque tu vois quelqu'un qui opère à une dimension extraordinaire avec Dieu, sache que c'est quelqu'un qui est déjà mort. C'est quelqu'un qui est mort à ses projets personnels. C'est quelqu'un qui est mort à sa propre vie. Il est mort pour Dieu. C'est-à-dire, un jour, c'est pour cela que Jésus-Christ, j'ai compris cette parole que Jésus-Christ a sortie à Pilate dans le livre de Jean. Il dit, personne ne peut me tuer. Vous n'avez pas vu cette parole dans le livre de Jean. Il dit, personne ne peut me tuer. Je donne ma vie et je la reprends comme je veux. Personne ne peut me tuer. Pourquoi? Parce que je suis déjà mort. Parce que le Fils de l'homme, Jésus, avait été déjà crucifié avant la fondation du monde. Donc, en fait, Jésus, pendant 33 ans, c'était un mort vivant. C'était quelqu'un qui était déjà mort. Et quelqu'un qui est déjà mort, Dieu peut l'utiliser comme il veut. Il est mort à ses projets. Il est mort à ses aspirations. Il est mort à ses désirs. Mais tant que tu n'es pas mort, le désir prend place. Tant que tu n'es pas mort, le péché a encore le pouvoir sur toi. C'est pour cela que tu as du mal. Sois mort. Deuxième clé, très importante. Tu dois crucifier ton moi. Est-ce qu'on peut dire avec moi le moi? Le moi, Paul en parle. Il faut bien lire la Bible. Le moi, Paul en parle. Galates 2, 20, version parole vivante. On y revient. Paul dit, la mort du Christ à la croix, ou encore en croix, a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui, et si je continue de vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Vous ne vous rappelez pas du chant de tout à l'heure? Mon passé est derrière moi. Le moi. Le passé est derrière. Mais le moi, vous savez qui c'est? Le moi, c'est celui qui a tendance à te parler dans ton esprit, qui te dit, ah Joe, les choses de Dieu, là, laisse ça. Est-ce que vous avez déjà vu dans des films ou dans des dessins animés, quand quelqu'un veut prendre une décision et puis il est confronté, il ne sait pas quelle décision prendre, et puis tout d'un coup, il y a un ange rouge qui apparaît à gauche, et puis un ange blanc qui apparaît à droite, et puis l'ange blanc dit, ne fais pas ça, car c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça, et puis l'ange rouge dit, c'est bon, vas-y, fais-le. Ça, c'est le moi. Tu es là, tu sais que c'est pas bien. Tu regardes la petite, tu sais que c'est pas bien. Mais le moi te dit, gars, vas-y, il n'y a rien là. Dieu va te faire quoi? Il n'y a rien, laisse ça. Laisse ça, allons, va. Tu es là, tu sais que c'est pas bien de mentir. Mais quand tu mens, tu dis, ah, c'est bon, je ne vais pas mourir là. Le moi. Et Paul dit, il faut le crucifier, ce moi, cette vieille nature là. Et c'est très important. Donc, si tu ne crucifies pas le moi, un jour, je reviendrai plus en profondeur sur ce point-là, parce que c'est tout un enseignement sur le moi. Mais je vous assure, c'est très, très profond. Et enfin, la troisième clé pour finir. La troisième clé, Paul nous la montre dans Galates 5, au verset 22. C'est « Perfectionne-toi tous les jours dans les fruits de l'esprit. » Car Paul nous parle des œuvres de la chair, mais il nous dit que le citoyen du royaume, celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, est quelqu'un qui tous les jours cherche à grandir dans ces choses-là. Je vous assure, dans Ecclésiaste, le roi Salomon a dit, les commandements de Dieu sont simples, mais c'est nous qui compliquons tout. Marcher avec Christ est facile, mais c'est nous qui compliquons. Et Paul dit dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Version parole vivante va encore plus loin. Elle dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté. Quoi d'autre encore? La générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Quand quelqu'un, Dieu dit cède. Mais Seigneur, si je cède là, il va avoir raison. Cède. Ne te cherche pas des problèmes avec quelqu'un. Car tant que vous pouvez être en paix avec les autres, soyez en paix avec les autres. La tempérance, ça veut dire savoir garder ton calme. Oh, garde ton calme. La chasteté, la maîtrise de soi. Parfois, quand tu vas dans les églises, tu trouves les chrétiens veulent être spirituels. Quelqu'un a appelé ça les SS, les super spirituels. Hein? Alors que Dieu est simple, le bon caractère, la confiance dans les autres, quand tu prêtes à l'autre, tu ne commences pas à soupçonner qu'il ne va pas te rendre. Tu donnes avec amour, simplement. Et Dieu dit tous les jours, cherche à grandir dans ces choses. Et pour finir, la conclusion, c'est si tu veux être agréable à Dieu, regarde à ces choses-là de très près. Et si tu vois qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à appliquer dans ta vie, alors travaille dessus, tout simplement. Et tu seras agréable à Dieu. Amen. On va incliner la tête. Et je voudrais que tu puisses t'examiner, que tu puisses regarder à ces choses et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Simple, avec peut-être beaucoup de simplicité. Mais Seigneur, je prie que cette parole puisse tomber, Seigneur, dans une terre fertile. Une terre fertile afin qu'elle porte beaucoup de fruits, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour la grâce que tu me fais d'être appelé ton fils. Et tu dis encore que je suis citoyen de ton royaume. Tu dis encore que je suis citoyen du royaume des cieux, Seigneur. Alors, Père, merci. Parce que tu m'accordes aujourd'hui la grâce d'appartenir à cette merveilleuse famille appelée l'Église. Et je veux tout simplement te dire merci, Père. J'ai entendu ta parole concernant, Seigneur, les œuvres manifestes de la chair. S'il y a certaines œuvres dans lesquelles tu te reconnais, alors demande pardon à Dieu. Car Dieu dit que certaines œuvres, certes, peuvent t'envoyer en enfer, mais d'autres peuvent t'empêcher d'expérimenter les bienfaits du royaume des cieux. Mais cherche plutôt à marcher tous les jours avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Il est la merveilleuse personne de Dieu. Il n'est pas une force. Il n'est pas une influence. Il est une personne avec des sentiments, avec des émotions. Et il peut te faire ressentir sa tristesse comme il peut te faire ressentir sa joie. Et je prie, Père, que tu m'accordes la révélation, Seigneur, de ta parole afin que je comprenne ces choses et que je puisse grandir avec toi. Père, merci. À toi soit toute la gloire. Merci parce que ta parole dans mon cœur prend place et elle porte beaucoup de fruits. Accorde-moi la grâce de grandir. Je dis dans ta parole que Jésus-Christ croissait en stature, en grâce et en sagesse. Accorde-moi aussi la grâce de grandir en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, afin que demain je puisse être agréable. Tu dis également dans ta parole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, Seigneur. Je veux, dans ma génération, faire partie des élus, c'est-à-dire ceux qui prennent l'engagement de marcher avec toi et de ne plus regarder en arrière. Oui, mon passé est derrière moi et je n'y retournerai plus. S'il y a encore des tentations, s'il y a encore des attachements, s'il y a encore des passions, des désirs, des convoitises qui me maintiennent, Seigneur, en arrière, aujourd'hui, je les lâche et aujourd'hui, je les abandonne. Aujourd'hui, j'active en moi la loi de l'esprit de vie, Seigneur. Et si dans mes membres, la loi du péché avait encore un quelconque pouvoir, aujourd'hui je déclare qu'elle est annulée. Et aujourd'hui je marche selon la loi de l'esprit de vie. Je marche dans la victoire, je marche dans une vie victorieuse et que ma vie reflète et témoigne de cette victoire que tu as accomplie à la croix. Car c'est une honte pour le royaume. C'est une honte pour le royaume des cieux de voir un enfant de Dieu marcher dans la défaite, marcher dans le péché, marcher dans une culture mondaine. Il y a tellement de choses que la culture du monde nous a inculquées. Mais lorsque nous arrivons dans le royaume, dans l'église, nous avons du mal à nous en détacher. Mais aujourd'hui, par ta grâce, par la connaissance et par la révélation de ta parole, j'abandonne, Seigneur, toutes ces choses qui m'empêchent de croître et de grandir. Et j'accepte, j'embrasse la culture du royaume des cieux. Je me comporte comme un citoyen du royaume des cieux. Je me comporte comme un ambassadeur de Christ. Je me comporte comme un fils de Dieu. Je marche avec autorité. Je marche dans la victoire. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la fidélité. Je marche dans la tempérance. Les 9 fruits de l'esprit, Seigneur, sont mon partage aujourd'hui. Je déclare, Seigneur, que l'amour, la paix, la joie et tous les autres fruits de l'esprit, je grandis dedans. Oui, Père, que ma vie, mon caractère, témoigne de ta bonté, témoigne de ta personne, témoigne de ton caractère, car tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur toute la terre. Aujourd'hui, je suis à ton image. Aujourd'hui, j'ai ton image, celle de Christ. Et aujourd'hui, mon passé, tout ce qui faisait défaut de ma vie, aujourd'hui est derrière et je marche aujourd'hui en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire et la louange. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu fais et que tu rends parfaite dans nos vies, Père. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole que j'ai entendue puisse être assise et accomplie dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de péché, toute forme de dépendance, toute forme de convoitise est vaincue dans ma vie, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Aucune convoitise, aucune passion, aucun désir ne me fera plus céder au nom de Jésus-Christ. Mais ma vie est une vie, est un témoignage de victoire et de réussite avec Dieu. À toi soit la gloire et la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Qu'un adorateur se lève et acclame simplement le Seigneur. Amen. 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 Amen.
Espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.